Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
Alors, remerciement à Jean 23 pour service obtenu, pour faveur obtenue, parce que ça fait longtemps que je rêve d'un livre qui recueillerait, en fait, toutes les chroniques, les meilleures chroniques de l'excellent correspondant à Paris du Devoir, Christian Rioux. Eh bien, c'est fait. Je le tiens dans mes mains. C'était le lancement hier. Donc, c'est chez Boréal. Chronique du monde qui vient. La nouvelle guerre culturelle. Et Christian est avec nous. Bonjour, Christian.
Bonjour, Richard.
Alors, c'est un recueil de quoi? Combien de chroniques?
Il y a presque 80 chroniques là-dedans. Mais des chroniques publiées sur à peu près 15-16 ans. Hein, donc, les plus vieilles remontent à 2006.
C'est un exercice quand même périlleux de recueillir ces chroniques dans un livre, parce que un journal, on le sait, on le lit, on le jette. Mm-hmm. Un livre, ça reste là. Donc, est-ce que les chroniques, c'est à chaud? C'est sûr, vraiment, on est collé sur l'actualité. Un livre, souvent, ça demande un certain recul. Est-ce que tu as réécrit certaines chroniques
J'ai pratiquement rien réécrit. J'ai fait des corrections, certaines corrections de style ou des redondances là, qui sont inévitables quand on écrit rapidement. Mais sinon à peu près rien. Je sais, vous avez fait partie pendant longtemps, pendant plusieurs années, de ceux qui me pressaient de publier, publier mes chroniques avec plein d'amis et même trois éditeurs qui me couraient après. Et donc, j'ai longtemps hésité, en fait, à publier ces chroniques pour les raisons que vous dites, justement. C'est-à-dire qu'une chronique, normalement, ça a une durée de vie de 24 heures. Si elle est meilleure, c'est 48 heures. Puis si elle est très bonne, c'est une semaine. Donc, voilà.
Les médias sociaux, maintenant, les chroniques restent.
On vit dans l'éphémère, nous les journalistes. Mais je me suis, face aux pressions, je me suis quand même attelé à la tâche de relire, en tout cas, un certain nombre de choses que j'avais fait. Et je vous dirais que ce qui m'a convaincu, c'est que je me suis aperçu qu'assez tôt, que très tôt, j'avais levé des lièvres, on pourrait dire. Vous savez, quand on est journaliste, on va à la pêche. Là, des fois, on pogne rien. Des fois, on en pogne un. Puis des fois, c'est un banc de poissons. Hein? On en pogne 28, comme j'ai pogné 28 poissons macro cet été sur le bord du fleuve. Alors, donc, et là, je me suis aperçu que très tôt, vous savez, sur la question des mots, par exemple, tout le langage de la rectitude politique, on dit plus les vieux, on dit plus les sourds, on dit plus les aveugles, c'est des non-voyants. Tout ça qui nous mène aujourd'hui à quoi? On n'a même plus le droit de dire le mot nègre. Vous voyez l'espèce de crescendo dans lequel on vit. Et ça, c'est vrai là-dessus, c'est vrai, le premier texte du livre, c'est un texte sur l'historien, le grand historien de l'esclavage, Olivier Grenouillot, qui en 2006 est dénoncé comme un révisionniste, comme étant un colonialiste par une organisation antiraciste. Mais imaginez, 2006, on est en 2006, et moi je parle de ça convaincu que, bon, c'est des fous qui font ça, dans un an, tout le monde va avoir oublié ça, mais on n'en parlera plus. C'est terminé. Mais non, aujourd'hui c'est dans toutes les universités, c'est partout. Et je dirais que c'est ça qui m'a convaincu de publier des chroniques. Je me suis dit, j'ai levé des lièvres assez tôt, et c'est peut-être intéressant pour les gens de voir comment ces choses-là sont apparues et comment elles sont montées finalement en crescendo jusqu'à l'idéologie aujourd'hui qui domine en bonne partie le monde intellectuel.
Puis c'est sur la nouvelle guerre culturelle, donc bien sûr le mouvement woke, la théorie du genre, l'anti-racisme qui devient vraiment raciste, le décolonialisme, etc. Et Chronique du monde qui vient, j'adore le titre. C'est comme si, Christian, tu étais dans l'avenir, là. Tu t'étais projeté dans l'avenir et tu nous dis, ben, voici ce qui vous attend. Oui. Cher Québécois.
Oui, vous savez, mon ancien patron, Jean Paré, avec qui j'ai travaillé 10 ans, disait toujours, dites-moi pas de quoi on parle aujourd'hui, dites-moi de quoi on va parler demain. je veux pas le savoir de ce dont on parle aujourd'hui, je le sais. Ça. Donc, il fabriquait son magazine d'actualité à l'époque, qui avait fondé comme ça. Et effectivement, moi, j'ai toujours un peu gardé cet esprit, mais je dois vous dire que jamais j'aurais pensé que ces phénomènes-là que j'attrapais, bon, moi, j'ai toujours été rébarbatif à cette espèce de langage ou de langue de bois impossible, à cette espèce de militantisme insupportable. insupportable, radical. J'ai toujours été assez rébarbatif à ça, mais jamais j'aurais pensé que ça prendrait l'ampleur que ça peut prendre aujourd'hui, alors qu'on a vraiment l'impression d'une idéologie qui correspond aujourd'hui à ce qu'est la mondialisation aujourd'hui et qui correspond aussi à un état des médias, à l'apparition des médias sociaux où on voit bien que cette idéologie... J'aime pas beaucoup le mot « woke », là, mais disons, utilisons-le parce qu'on n'en a pas de meilleur, quelque part. Cette idéologie-là, aujourd'hui, prend une ampleur que, vous savez, même les gauchistes des années 60, 70, vous pouvez pas imaginer, eux, contrôler des musées, contrôler des radios, des télévisions. Jamais les gauchistes des années 60, 70 auraient imaginé ça.
Et ce qui est intéressant...
aujourd'hui, des gens encore plus radicaux que ces vieux marxistes-là, aujourd'hui, imposent leur idéologie un peu partout.
Donc, les premiers textes datent de 2006. Oui. Et ce qui est intéressant de lire les chroniques par ordre chronologique, une après l'autre, c'est qu'on voit qu'au début, ben, c'est un phénomène marginal ici, puis après ça, c'est un épiphénomène un peu rigolo là-bas, puis après ça, c'est une nouvelle un peu farfelue qui vient de là. Et là, soudainement, tout ça, là, ça
cristallise.
Ça s'accélère, ça se cristallise, il y a de plus en plus de gens, et là, on voit vraiment qu'en très peu de temps, très peu d'années, notre société a changé bout par bout, comme on dit.
Oui, oui, absolument. Je vous dirais l'autre chose qui m'a convaincu de publier ce livre-là, parce qu'il a fallu me convaincre, hein. Il a fallu régulièrement me motiver pour le faire, et je remercie les gens de Boréal et notamment François Ricard qui a joué un grand rôle Ricard là-dedans. Ce qui m'a beaucoup convaincu aussi, c'est de voir aujourd'hui, je dirais, réapparaître la censure. Je vous dirais que moi, je suis de la génération d'après Denise Boucher, d'après Les Filles ont soif. Hein? Puis Les Filles ont soif, vous savez, ça n'a pas été censuré. Hein? Il y a eu des menaces de censure, mais les gens se sont tenus debout à cette époque-là. Et je peux vous dire que s'il y avait, dans ma vie de journaliste, s'il y a une chose que je pensais jamais rencontrer dans ma vie, c'est la censure. Pour moi, j'ai grandi, j'ai été au cégep, on pouvait écrire les pires conneries, les pires niaiseries, puis j'en ai écrit quand j'avais cet âge-là, mais la censure, ça n'existait pas, ça faisait même pas partie de notre univers mental. On pouvait dénoncer le système, on savait qu'on nous écouterait toujours, on savait qu'on aurait toujours la liberté d'écrire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette liberté-là est menacée, comme elle a pu l'être à d'autres époques. Je pense notamment aux années 50. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on brûle des livres, qu'on décroche des tableaux dans des musées. Je vous dirais que ça quelque part, ça m'a fait réfléchir sur ma propre naïveté. Face à un monde qu'on imaginait heureux à tout jamais et libre à tout jamais, ce qui n'est pas vraiment le cas.
Et la question quiz qu'on se pose après avoir lu ces chroniques-là, Christian, c'est est-ce qu'on va assister à un retour du balancier? Est-ce que c'est un mouvement de mode, comme il y en a eu dans les années 60, où tous les intellectuels étaient maoïstes, vantaient les vertus du communisme? Bon, est-ce que c'est ça? On en est revenu. C'est un effet de mode. On en est revenu, heureusement. Mm-hmm. Là, est-ce qu'on est comme dans le crunch, au centre du tunnel? Mathieu Bocoté, je lui pose souvent la question, lui est convaincu que c'est un changement de société, que c'est pour de nombreuses années qu'on est là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses, Christian?
Oui, le parallèle avec les intellectuels des années 60 est intéressant, mais comme je vous dis, aujourd'hui, c'est multiplié, c'est au cube, c'est quadruple, c'est multiplié par mille ce qui se passe aujourd'hui parce que cette idéologie contrôle des institutions. Les marxistes contrôlaient pas les musées dans les années 60. Ils contrôlaient pas les universités. Ils étaient très influents, mais je me souviens très bien d'un petit groupe marxistiniste qui avait contrôlé un module d'animation culturel à l'UQAM, le module a été mis en tutelle 3 mois après. Aujourd'hui, il faudrait mettre combien d'universités américaines aujourd'hui en tutelle. Est-ce que c'est là pour durer? Je pense que c'est là pour durer parce qu'il y a toute une conjonction de phénomènes qui arrivent en même temps. C'est-à-dire que je pense que la mondialisation quelque part a trouvé son idéologie. Et c'est la gauche et l'extrême gauche qui lui a offert sur un plateau d'argent une idéologie. Parce qu'il faut on peut pas juste faire la mondialisation, hein, l'exportation des capitaux hôpitaux, des marchandises et des personnes. Il faut aussi qu'on ait l'air de faire le bien. Et donc, l'idéologie qui est là, elle prône le bien, tout le temps en permanence, mais bon, qui veut le bien, hein, vous connaissez le dicton. Donc, je pense qu'il y a il y a la conjonction, je pense, aussi des médias sociaux. C'est une idéologie qui peut se répandre parce qu'on se retrouve à une époque où les grands médias, comme Le Devoir, par exemple, comme les grands journaux, Le Monde, le New York Times, d'une part ont perdu l'influence et d'autre part, souvent se convertissent même à ces idéologies-là. Donc, il y a toute une conjonction qui fait que je pense que ça va durer. Mais vous savez, ce qui me rassure là-dedans, c'est que le peuple, lui, n'embarque pas là-dedans. C'est hors de ses proportions. Moi, je dis souvent, vous savez, Jean Jaurès aurait compris le programme de René Lévesque. Il aurait lu le programme de René Lévesque, il aurait compris tous les mots. René Lévesque était un social-démocrate de type, il admirait la Suède et tout ça. Et pourtant, il a regardé les années, les décennies qu'il y a entre eux. René Lévesque lirait le programme de Québec solidaire aujourd'hui, il comprendrait rien. Il comprendrait absolument rien. Tout le programme sociétal, il comprendrait même pas les mots. Pour vous dire comment ces gens-là, parfois, sont des martiens. Or, je pense que les Québécois, en général, comprennent toujours ce que disait René Lévesque. Sont encore capables de lire ses livres. Et donc, je dirais qu'on peut-être mettre notre espoir de ce côté-là. Il y a encore des gens, quand même, qui ont des pieds sur terre.
Et je cite souvent cette phrase d'Étienne de la Boétie, là, du traité de la servitude volontaire. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Oui, et ce qui revient dans tes chroniques et dans ce livre-là, c'est la faiblesse des institutions. Et les institutions devrait justement se tenir debout contre ces effets de mode-là, au contraire, là. Et surtout, souvent, les gens qui sont dans les institutions ont les cheveux gris, ont une bédaine, font partie d'une certaine génération et veulent montrer qu'ils sont dans le vent, qu'ils sont dans le coup, qu'ils sont jeunes et là, embarquent dans ce... plutôt que d'agir en garde-fou, finalement.
Oui, absolument. Je pense que les institutions jouent pas leur rôle. Quelque part aussi les adultes, hein, jouent pas leur rôle. Aujourd'hui, les adultes veulent pas être perçus comme des adultes. Les vieux veulent pas être perçus comme des vieux, mais bien comme des jeunes, hein, comme si on était jeune toute sa vie. Et je pense qu'une des causes, en tout cas, qui explique l'influence de cette idéologie-là aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais l'effondrement de l'école. C'est-à-dire que les générations précédentes ont eu la chance d'avoir des écoles, c'était soit privées, soit publiques, mais des écoles qui enseignaient les fondements de l'humanisme, qui enseignaient la littérature, qui enseignaient à penser, mais à partir de grands textes, à partir de véritables maîtres. Et ça, on a abandonné ça depuis au moins 20 ans, si c'est pas plus. Et on se retrouve face à des générations qui sont démunies face à ces idéologies-là, qui sont qu'on livre en pâture à peu près aux idéologues parce qu'on les a pas pour penser le monde autrement, pour référer à l'histoire, par exemple, pour comprendre que ces phénomènes-là existent dans l'histoire, qu'ils ont déjà existé, mais qu'on peut s'en débarrasser, puis qu'on peut les critiquer. Donc on est face à des générations qu'on n'a pas armées pour se battre contre ça, et il va falloir, donc, je pense, les réarmer. Il va falloir se remettre, il va falloir empiler des sacs de sable et puis se défendre. Mais bon, c'est la vie aussi.
La critique qu'on reçoit le plus souvent lorsqu'on critique notre époque, lorsqu'on jette un regard critique sur notre époque, c'est que, ah oui, t'es un nostalgique, tu penses que c'était mieux avant, t'es un décliniste, etc. Bon, toutes les générations disent ça, que c'était mieux avant. Bon, c'est une critique que certains vont te porter, Christian, en disant, t'es un décliniste, t'es un nostalgique, t'es un vieux schnock qui s'ennuie de sa jeunesse.
Oui, vous savez, André Malraux disait, on n'hérite pas du passé, le passé se conquiert. C'est pour toutes les générations, le passé, vous savez, c'est pas quelque chose nécessairement dont on hérite, il faut le conquérir. C'est-à-dire chaque génération va puiser dans l'histoire ce qu'elle veut être. Mais ce que l'idéologie dont on parle est en train de faire, c'est de rayer le passé, c'est de nous empêcher d'aller chercher dans l'histoire ce qui pourrait nous réarmer, ce qui pourrait nous permettre de comprendre le monde d'aujourd'hui. Alors Alors, me traiter de nostalgique, je vous dirais que ça me tombe comme de l'eau sur le dos d'un canard parce que je suis conscient que justement ce passé-là, il faut le conquérir. C'est-à-dire, il faut l'histoire du Québec, il faut chaque génération doit la réapprendre. Elle nous est pas donnée. Il faut un effort pour aller la chercher, cette histoire-là. Donc, c'est pas une question de nostalgie, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut faire avec notre histoire et comment on comprend notre histoire pour bâtir l'avenir. Mais comme je vous le répète, cette idéologie veut rayer l'histoire. C'est-à-dire que tout ce qui nous a précédé sera acheté aux poubelles. Du passé, faisons table rase, hein, dit une chanson assez connue qui a été chantée beaucoup, l'international. Eh bien, oui, c'est un peu le mot d'ordre de cette idéologie. Mais je pense que je mets ma confiance dans les peuples. Je regarde les Français ordinaires, par exemple. Je regarde les Américains du Midwest. Je regarde les Québécois du bas du fleuve. Vous savez, les mots même de cette idéologie-là, ils les comprennent pas. Il y a personne qui dit Yel, par exemple. Il y a personne qui dit ça. Personne nulle part, là, sauf le Robert qui dit ça. Et donc, à un moment donné, je peux pas penser que le principe de réalité reprendra pas ses droits, même si les élites, en tout cas, vont devoir être mis au pas quelque part.
Et que quand on va dans un grand centre commercial comme le Carrefour Laval et on est perdu à un moment donné, on cherche toujours le gros plan, là, puis on arrive devant, il y a un plan du centre commercial et on dit « vous êtes ici ».
Oui.
Ben c'est ça, ce livre-là. C'est vraiment, on est perdu dans un monde, oui. Et ce livre-là dit « vous êtes ici ». Oui. C'est comme nous situer face à ce monde qui devient de plus en plus confus, de plus en plus mêlant. Et ce que tu fais dans ton livre, c'est que tu cristallises dans quel monde on vit, mais en même temps, c'est déprimant. Mon Dieu, que c'est déprimant. Oui. Parce que, tu sais, c'est vraiment, parce que dans la vie de tous les jours, il y a d'autres choses qui se passent, il y a plein d'autres affaires qui se passent, là. Et bien sûr, dans ce livre-là, tu focuses sur tous les changements de société qui sont très négatifs, qui sont très épeurants. On lit ça, puis on dit, my God, oui, c'est
déprimant, mais là encore, regardons l'histoire, regardons ce que les générations qui nous ont précédés ont affronté, les générations qui, nos grands-parents ont affronté des guerres, ils ont affronté des famines, ils ont affronté, regardons l'histoire du Québec même, ils ont affronté une conquête. Écoutez, je pense que les Québécois sont assez bons pour combattre une idéologie comme cela. Je suis assez confiant dans les peuples sur cette question-là.
Sur le gros bon sens.
Je pense, oui, ça le donne appel bon le sens commun, hein, disait Orwell.
Oui,
c'est ça, le fameux sens commun que cette gauche-là a perdu complètement. Vous savez, quand on dans les années 60, on parlait des marxistes des années 60. On idéalisait le prolétariat. Faire la révolution, puis un jour, nos pauvres marxistes ils vont nous s'apercevoir que non, ils ne feraient pas la révolution, le prolétariat. Le prolétariat, c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient améliorer ses conditions, bien sûr. Ils voulaient une meilleure société, mais pas faire la révolution. Alors, il y a des gens qui, face à ça, se sont dit, d'accord, revenons à la réalité. Allons voir le monde comme ils sont, puis essayer de comprendre comment fonctionne la société. Mais il y a toute une partie de cette gauche-là qui s'est dit, non, on va se réfugier dans la théorie. On va se réfugier dans les universités. Et ces gens-là se sont réfugiés dans les universités, ont continué à construire leur monde théorique, complètement déconnecté de la réalité. Et ça s'est passé pendant toutes les années 80, 90, 2000. Et aujourd'hui, on voit le résultat de ça qui explose. Là.
Et ce n'est pas de l'anti-intellectualisme de dire ça, de critiquer les dérives de certains intellectuels. C'est pas de l'anti-intellectualisme. Et en terminant, Christian, il y a Philippe-Vincent Foisy qui anime l'émission du matin ici qui me montrait cette nouvelle-là et là tu vas tomber en bas de ta chaise.
Je me tiens après la table.
C'est pire que tout. Il y a eu une marche des femmes, le Women March, et ils ont tweeté en disant, écoutez, la moyenne des dons qu'on a reçus des gens, parce qu'ils ramassaient des dons pour les femmes, la moyenne des dons qu'on a reçus, c'était de $14.92 par personne qui ont participé à ça. Et après ça, ils ont tweeté pour s'excuser d'avoir écrit un 492 parce que c'est une date funeste pour l'esclavage, c'était la découverte de l'Amérique et tout ça. Et alors, elle dit, on s'excuse vraiment d'avoir utilisé ce mot-là, un 492. Mais Christy, 1492, c'était le nombre de dons, c'est les dons moyens qu'ils ont reçus, mais ils ont dû s'excuser d'avoir écrit un 492.
Oui, ben,
on voyez, est rendu là.
Vous voyez des gens justement qui vivent dans une bulle, hein, des gens qui sont toujours là en train de triturer les mots, triturer pensant qu'ils vont changer le monde sans jamais parler à personne, mais en triturant des mots dans un bureau de l'UQAM perdu au fond d'un couloir.
Ben, en fait, des théories là, on peut faire dire n'importe quoi avec des théories.
Ben, la théorie a besoin de, on le sait ça depuis les Grecs, on le sait depuis Montaigne, la théorie a besoin d'être confrontée à la réalité. Il doit y avoir un aller-retour entre les marxistes disaient la praxis, hein, en utilisant un mot grec, entre la pratique et la théorie. Visiblement, aujourd'hui, avec le relativisme actuel, on pense que la théorie se suffit à elle-même et ça donne ce genre de construction aberrante et un peu délirante.
En tout cas, ça s'intitule Chronique du monde qui vient, la nouvelle guerre culturelle. C'est chez Boréal de Christian Rioux et c'est une brique de plus d'ajouter dans le mur qui va nous protéger, j'espère, de la folie ambiante. Un livre incontournable, nécessaire. Merci beaucoup, Christian.
J'aime bien votre idée de savoir où on est rendu.
Exactement,
avec la grosse flèche. Ouais, c'est ça, très bien. Ben, écoutez, merci infiniment.
Merci, on va s'en parler dans l'émission de toute façon.
Absolument.
Merci, Christian.
Tout à fait, merci beaucoup, au revoir.